Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Bonjour à tous, chers amis de Radio Cité. Vous êtes donc bien sur votre radio favorite et c'est l'émission Nectar. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement de Russin. Russin qui est un village peut-être du point de vue viticole moins connu que Dardagny, Pessy, etc., mais qui renferme pas moins de très très bons terroirs. Et nous sommes aujourd'hui reçus très aimablement au domaine des Mollard. Alors avant de creuser le sujet, Mollard, on connaît la place du Mollard. Qu'est-ce que c'est ces Mollard de Russin, Michel Desbaillets?
Alors le Mollard, il y a trois types de Mollard. Donc il y a le Mollard, la place du Mollard, comme vous avez dit, qui était un Mollard en Genevois, c'est une bitnamaroge, parce que le lac venait jusqu'à la place du Mollard, puis il y a les Mollardiers qui venaient, parce qu'il n'y avait pas de chômage du tout, parce qu'il n'y avait pas de travail, ils venaient là pour chercher du travail. Ils appelaient ça les Mollardiers. Et puis il y a le petit mont, en Savoie, on dit un Mollard, c'est un petit mont, donc nous, Russin, comme on a les monts de Russin, quoi, qui sont juste à côté, sur la commune, donc ça doit venir un petit peu de là. Puis il y a le troisième Mollard, évidemment, qui est moins glorieux, parisien, celui-là, qui est le crachat. Alors nous, c'est pas le crachat, c'est le petit mont.
Voilà, donc simplement, la route des Mollards, c'est simplement la route qui monte du centre du village de Russin à La Chauma et qui passe par un petit mont. Voilà. Alors, votre domaine est un domaine très ancien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la date de sa fondation ou à quand remontent les premiers témoignages de son existence?
Alors, la première mention écrite des Desbaillets, quoi, c'est Jacques Desbaillets qui achète une vigne en 1352 à Raymond de la Corbière, qui était le seigneur de Dardagny. Et puis, alors ça, c'est la première mention écrite. Autrement, il y a l'hameau des Baillets, qui est un petit hameau de la commune de Russin, dont on est originaire. Donc, on est arrivé à Russin, au village de Russin en 1719. Et puis, avant, on était au Baillet. Donc, on ne sait pas qui c'est qui a donné le nom, si c'est la famille qui a donné le nom au hameau ou l'hameau qui a donné le nom à la famille. Ça, on ne sait pas. Mais on est originaire des Baillets, quoi.
Voilà, donc les Baillets sont nombreux à être dans la viticulture. Je crois savoir qu'il y en a aussi à Chouilly. Dans votre famille, est-ce qu'il est évident que l'on reprend la vigne de père en fils?
Oui, alors ça s'est toujours fait comme ça, ça reprend de père en fils. Maintenant, il y a des filles qui reprennent aussi, mais il faut se remettre un petit peu à l'époque. Jusqu'à maintenant, tous les travaux étaient pénibles. Donc les filles, il y avait beaucoup plus de peine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de filles qui revenaient à la terre. En général, dans les métiers agricoles, c'était pénible. Avant les machines, maintenant que les machines, on a quand même beaucoup plus de possibilités. Et puis le problème qu'on a à Russin, c'est qu'on a quand même beaucoup de pentes, des coteaux jusqu'à 50% de pentes. Et puis là, les coteaux, on a beaucoup de travaux à la main à faire, qui reste pénible. Donc, on travaille des surfaces plus petites que nos collègues, mais on a moins de communauté. Même ce qu'on fait à Longembourg, c'est le tracteur qui va dans les vignes, on va jusqu'à 30%, mais en dessous, c'est un petit peu plus délicat. Moi, j'ai mécanisé les coteaux à 50%. On passe les 50% avec un tracteur à chenilles, mais c'est toujours un petit peu délicat. Au printemps, quand on va la première fois, on a toujours un petit peu en souci, quoi.
Peut-être dans la boue, c'est ça ou bien?
Non, c'est surtout qu'ils glissent puis qu'ils partent. Parce que alors, la chenille, c'est très bien, mais si ça décroche, ça part, mais c'est affreux, quoi.
Oui, alors ces coteaux sont difficiles, mais alors, en revanche, ce sont de magnifiques expositions.
Oui, alors tout à fait. La vigne, c'est comme un panneau solaire, hein, la vigne. Chaque feuille est un panneau solaire, si on veut bien dire. Donc la meilleure exposition, c'est au sud. Et puis Russin, on a la chance d'avoir des terrains qui penchent beaucoup au sud. Et puis si on est en coteau, on a plus de soleil. Les vieux disaient, pour savoir où il faut planter la vigne, il faut garder quand la neige fond, comme ça. Mais il faut une bonne couche de neige. Alors bon, c'est vrai que ces dernières années, c'est plus difficile à voir. Mais si on a une bonne couche de neige, on voit comme sur le coteau de la London, par exemple, qui tourne un petit peu, comme tous les vallons. Et quand il y a une couche de neige qui reste un petit peu longtemps, on voit fondre et puis on voit où les vieux avaient planté la vigne. Ils ont planté la vigne, c'est pas n'importe où, pas n'importe comment. Et on voit les coins où la neige, elle reste, bah, c'est des coins qui sont quand même plus froids.
Voilà, donc ne pas planter la vigne là où la neige subsiste longtemps. En somme, si vous voulez planter une vigne, vous avez un endroit qui vous semble tout à fait approprié. Est-ce que vous devez demander une autorisation?
Oui, alors il y a le cadastre viticole qui est de Berne, comme ça. Donc tout est réglementé, régi, tout. Maintenant, on peut plus l'étendre. Quoi. Il n'y a pas d'extension possible à l'heure actuelle. Donc on doit planter dans les parcelles qui sont... prévu pour ça.
Voilà, donc les parcelles existantes, les parcelles traditionnelles et souvent fort anciennes, je suppose. Je reviens quand même à la généalogie, à la famille. Bon, dans les familles, autrefois, on avait plus d'enfants que maintenant. C'est les appartements de ville qui font qu'on se limite à 2 ou 3, etc. Tandis qu'autrefois, il y avait des familles nombreuses. Donc, est-ce que le vignoble des Mollard n'était pas sans cesse fractionné, remodelé, peut-être enrichi ou appauvri?
Oui, alors, bien sûr, disons que comme mon grand-père, par exemple, bon, il était l'aîné, et puis son père a eu une attaque à 40 ans, donc il a dû reprendre la campagne à 17 ans. Et puis il avait un frère qui était plus jeune, qui est revenu avec lui. Donc après la campagne du temps de mon père, quand mon père a repris, ils ont divisé la campagne en deux. Et puis donc il y avait des divisions de campagne qui se faisaient comme ça, parce que les enfants, si on prend la génération de mon grand-père, il reste à la campagne. Il n'y en a pas beaucoup qui quittent. Du temps de mon père, tout le monde partait. Mais du temps de mon grand-père, tout le monde restait comme ça parce qu'il n'y avait pas de débouché ailleurs. Alors, mais ce qu'il y a, c'est que non plus, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Alors, quand ils mariaient une fille qui avait du bien pour la dédommager du mariage ou en cadeau de mariage, quoi, ils lui refilaient un terrain. Alors, c'est pour ça que les campagnes se faisaient, se défaisaient, si on veut bien dire.
Elles sont très découpées, oui. Ce qui m'impressionne, c'est la situation bourguignonne, par exemple, où vous avez un climat, je ne sais pas, un climat de Nuit-Saint-Georges, disons, le Clos de la Maréchale, et puis il appartient à 10 familles à la fois, et puis chacun des vignerons a telle ou telle ligne, etc. Et finalement, au fil des générations, il y a un changement continu, enfin bref. Donc, à Genève, on n'y échappe pas. Voilà, eh bien, chers auditeurs, je vous laisse une petite pause en compagnie de notre éternel ami Wolfgang Amadeus Mozart. Nous avons évoqué à l'instant l'histoire assez ancienne. Nous allons évoquer après cette pause l'histoire un peu plus récente.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Nous avons le plaisir d'être reçus à Russin par Michel Desbaillets, qui est le maître du domaine des Mollard. Voilà. Eh bien, l'histoire récente, elle a été peut-être assez difficile dans le sens que, bon, personnellement, je me souviens bien des 50 dernières années. Il y a eu un moment où la plupart des vignerons genevois étaient adhérents de la cave. On disait 20 unions à l'époque. Et puis, à un moment donné, parce que l'embarcation prenait l'eau, il a fallu faire le saut. Donc, je crois que vous vous êtes trouvé dans cette situation.
Oui, alors, tout à fait. Mon père est le dernier à être rentré du village de la cave. Et puis, moi, j'étais un peu le premier à partir complètement de la cave. Mon père, comme je vous ai dit avant, mon grand-père travaillait avec son frère. Donc, il n'y avait qu'une cave. Et puis, comme mon grand-oncle n'avait pas d'enfant qui revenait à la campagne, alors il a décidé de raser le bâtiment et puis construire une villa pour son fils à la place. Et puis, comme la cave, c'était une cave qui était en béton, qui était le béton à l'époque, et puis que tout était assez âgé, alors mon père, puis il y a eu le gel de 56, où ils ont renouvelé toutes les vignes, quoi. À peu près. Donc mon père, financièrement, n'avait pas les moyens de se reconstruire une cave. La solution raisonnable, c'était rentrer de la coopérative. Après, moi, ben voilà, quoi, vu les déboires de la cave,
qui n'allait pas. Vous avez dû faire le saut, ouais. Et alors là, vous avez dû réinventer votre métier.
Oui, alors tout à fait, on a dû se remettre en question pour tout. Ça a été une période qui a été très difficile moralement. Je vous cache pas, j'ai perdu le sommeil à ce moment-là. Et puis, il y avait quand même une partie qu'on vendait en bouteille. On faisait déjà du commerce, ma femme faisait du commerce de bouteille à l'époque. Et puis, il fallait qu'on garde ce côté commercial aussi. Alors, il fallait trouver quelqu'un qui nous vinifie, tout, savoir comment... Il y avait l'ensemble, parce qu'on vendait une petite partie sous verre, pas tout, mais petite partie. Donc, parce qu'il y a toujours une part, grosse part du commerce de gros. Donc, il fallait assurer le commerce de gros pour faire vivre la famille. Alors, c'était un moment qui était assez délicat. Alors, on a trouvé un marchand qui nous rachète la vendange. Alors, au début, des tractations avec le marchand, il voulait nous acheter en vin clair, c'est-à-dire au mois de mars. Donc, il fallait construire une cave complète. Comme j'avais un peu épuisé les réserves avec les années, la situation était plus que tendue. Alors bon, il y avait un projet, mais c'est des projets qui ont dépassé le million, qui faisaient un peu de soucis quand même. Et puis là, on a été voir en plusieurs fois le marchand. Et puis pour finir, le marchand nous a dit « mais moi je prends en raisin ». Parce qu'il faut tomber aussi sur un marchand qui est capable de payer. Hein. Parce que les marchands, il y en a beaucoup qui sont tombés avec la grosse récolte de 82. Il y a énormément de marchands qui sont tombés. Donc, il fallait tomber sur un marchand qui était solide. Et à ce moment-là, il m'a dit, bon, c'était 3 ou 4 ans après, je ne sais plus, il m'a dit, mais non, maintenant, moi, je prends uniquement raisin. Ça ne vous embête pas? Ben, j'ai dit non.
C'est une facilité, peut-être.
C'était surtout le côté économique, parce que je n'avais pas été voir les banques s'ils étaient d'accord de me prêter pour construire la cave. Et il y avait un autre côté aussi, il y avait plusieurs choses, c'est qu'à ce moment-là aussi, on était vendangé déjà une partie, tout ce qu'on faisait à l'enjambeur, on vendangeait avec la machine, mais comme je vous disais avant, quand on passe à 30% de pente, c'est toujours un peu délicat, il n'y a que moi qui le conduisais à l'enjambeur, avec la machine vendangée dessus. Donc, dans des conditions difficiles, ça aurait été avoir la cave, plus gérer la vigne, plus comme on a de l'arboriculture à côté, gérer l'ensemble, c'était plus que délicat et compliqué. Donc, c'était une situation, dans le fond, qui m'arrangeait, qu'on prenait moins de risques financiers et puis moins de risques aussi au niveau de la santé.
Parce maintenant, un accident, vite arrivé. Oui, maintenant, vous êtes dans une situation stable.
Ben maintenant, oui, parce que je suis à la retraite, j'ai remis à mon fils depuis 3 ans. Alors, non, je suis dans une situation. C'est vrai qu'on a fait notre situation comme ça. Le système fonctionne bien. Ça fait depuis 98 qu'on est comme ça. Première récolte qu'on a livrée, c'était 98. Le système fonctionne bien. Et on a une petite partie pour les bouteilles aussi qu'on fait, donc pour qu'ils soient garantis pour nous, qui est traitée par une maison qui fait de la vinification à façon. Donc, les petits volumes que la grande maison ne peut pas nous garantir que c'est le nôtre, c'est une petite entreprise qui nous l'a fait, qui vinifie à façon pour beaucoup de monde. Quoi.
Voilà, donc, je ne sais pas, je devine, peut-être j'insinue même, vous gardez les meilleurs raisins peut-être qui ont été vendangés au meilleur moment, etc., les plus prometteurs, pour la production qui sera diffusée sous votre étiquette.
Ah, tout à fait, oui, oui. Ce qui nous a permis de finir en 2013, c'était, on a fini 3e Suisse avec le Chasselas. Il y avait 450 inscrits. Et puis, on a fini devant beaucoup de monde. C'était une remise à Berne qui nous a fait... Ça fait bien du plaisir. On avait un petit peu été rodés avant, parce que juste quelques années avant, on a déjà fait 2e avec le Gamay. Alors, qui sont quand même des vins qui a beaucoup de monde fait, quoi, faut dire quand même.
Tout le monde.
Voilà, ouais.
Qui ne fait pas de Gamay, qui ne fait pas de Chasselas, Genève, est-ce qu'il y en a?
Pas que je sache. Oui, il y en a peut-être un. Peut-être qu'il n'en fait pas. Je ne sais pas, mais je ne peux pas garantir.
On ne dira pas son nom, mais je crois que nos auditeurs le connaissent bien. C'est un personnage qu'on aime beaucoup, mais qui a son originalité.
Voilà. Autrement, on a bon les prix. On fait 2 concours. On fait un concours suisse, puis un concours le concours suisse, et puis le concours genevois. Et puis on a eu pas mal de prix justement comme ça. Ça nous permet aussi ce système-là, nous permet de concentrer tous nos efforts sur la vigne, parce qu'il faut jamais oublier que pour faire du bon vin, il faut avoir du bon raisin. Hein. Un orne, ça fera jamais un cheval de course. Donc, il faut concentrer ses efforts à la vigne. Et puis, comme je disais avant, nous, on a quand même des vignes qui sont à Russin. Moi, je dis souvent comme ça, si des collègues, parce qu'on est sur plusieurs communes, mais disons, quand on voit les collègues sur des autres communes, s'ils loupent un virage, ils atterrissent dans la vigne du voisin, puis ils lui disent, ben voilà, j'ai atterri chez toi, c'est pas grave. Mais on sort, on repart, et puis voilà. Tandis que nous, si on atterrit, si on se loupe, on finit en bas en talus, direction la London, ou bien les conséquences peuvent être beaucoup plus graves.
Oui, oui, c'est sûr. Votre père avait la réputation d'être un chercheur qui a été, peut-être un pionnier, et qui produisait des raisins d'une qualité exceptionnelle. Donc il a passé son existence, sa carrière de vigneron, à trouver les bonnes stratégies.
Oui, alors tout à fait. Disons que ça, c'était un petit peu... Il y a eu une vague de... C'est un peu par génération, pour dire, que ça se passe un petit peu comme ça. C'est que à Russin, ça s'est trouvé à un moment, il y a eu les chercheurs qui développaient. Il y a eu une génération à Russin qui était très ouverte à toutes les nouveautés. Et il y avait le CETA, c'est le groupement d'études techniques agricoles, qui était en avant, qui avait un technicien qui allait de l'avant, quoi. Puis il y avait toutes les nouvelles techniques qui arrivaient, et puis qui était dynamique. Puis c'est vrai que Russin, il y a eu un écho, ils étaient du même âge, et puis il y a eu un écho, puis tout le monde a avancé comme ça. Donc Russin était un anniversaire, je me rappelle, un anniversaire, j'étais pas encore revenu ici, mais il y avait l'ancien directeur de la Chambre d'agriculture, qui était directeur des 7 ans avant, et puis il y a eu un souper, puis il avait énuméré tous les essais qui avaient été faits à Russin. Et j'avais été sidéré de voir tout ce qu'ils faisaient. C'est vrai que il y avait un mouvement pour aller de l'avant. Alors les gens essayaient. C'était super intéressant. Ça allait super bien, quoi.
Oui, donc votre père, finalement, il a fait école.
Disons que c'est pas que mon père. C'est l'ensemble de Russin, des paysans de Russin, qui allaient de l'avant, quoi. Ça tirait dans tous les coins. Nous, on avait, par exemple, mon père, il avait un tout petit peu de grande culture. Mais par contre, il y avait des potus à Malval qui étaient très, très dynamiques au niveau des grandes cultures, qui faisaient énormément d'essais. Il y avait Pitet aussi qui faisait des essais, Girardet aussi, Porchet, donc Poney. Tout le secteur se donnait la main pour essayer d'avancer dans tous les coins, quoi. Là, ils étaient une équipe, ça devait être assez formidable, cette époque-là.
Voilà. Une question insidieuse pour terminer, j'y prends plaisir. Donc finalement, vous êtes en recherche continue, mais sur votre site internet, il est marqué que vous essayez de concilier la tradition et le progrès. Vous me semblez singulièrement tourné vers le progrès, mais un progrès compatible, dirais-je, pas n'importe lequel.
Mais je crois qu'il faut progresser avec les moyens que la technique nous met à disposition, tout en respectant la nature, et puis utiliser les nouveaux moyens techniques pour respecter la nature. Comme moi, je suis parti dans la lutte intégrée, j'ai un papier vaudois parce qu'il n'y avait rien à Genève pour les pommes. Et la lutte intégrée, c'était préserver les auxiliaires, diminuer au possible le nombre de traitements avec les moyens qu'on avait, donc mieux comprendre les maladies. Après, une fois qu'on comprend soit le cycle des végétaux, soit le cycle des ravageurs et des maladies, et puis après, avec les moyens qui nous sont mis à disposition pour évoluer. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous font avancer aussi, que dans le temps, on ne pouvait pas avancer comme on avance maintenant. Moi, j'ai eu la chance de causer énormément avec mon père, et puis, qui a travaillé jusqu'à 90 ans. Donc, on discutait ensemble. Et puis après, on arrivait sur une ligne médiane, si on veut bien dire. Parce qu'il me disait, ouais, mais tu sais, là, si tu fais comme ça, ça ira pas bien. Et puis, je disais, ouais, mais pourquoi? Puis il m'expliquait pourquoi. Parce qu'ils avaient déjà essayé, plus ou moins. Puis ils savaient que ça marcherait pas. Donc, on évoluait, disons, comme ça. Alors, moi, j'ai eu la chance, c'est que j'avais le côté histoire. Et puis, moi, j'étais allé devant la technique, et puis aller plus au niveau technique, puis il me disait, mais là, tu sais, ça ne veut pas tant bien jouer, comme tu dis. Je prends un exemple, par exemple, pour on avait été dans le Mâconnais, puis on voyait les rames, donc c'est la baguette qu'on courbe pour la vigne, qui porte les fruits l'année suivante. Et puis, là-bas, il l'attachait. Puis, il baissait les fils, non pas mettre les bois, passer les bois dans les fils. Il posait les fils, puis il remontait les fils. C'est un système qui allait bien là-bas. Et puis, moi, j'ai dit à mon père, je dis, oh, mais ça, c'est la bonne combine, on va y faire ici. Puis, il me dit, mais, ouais, fais, mais tu verras, ça ira pas, parce que les rames, elles tournent. On n'a pas la rigidité du bois que le Mâconnais a. Alors, bon, il y a des questions de cépage, climat aussi qui rentre en ligne de compte. J'avais essayé un petit bout, une ligne, pour voir. Et effectivement, les bois se retournaient. Alors après, on a eu la chance d'avoir, là c'est le côté technique et puis le renseignement, savoir s'enseigner, les fils releveurs qui sont arrivés. Donc c'est des fils qui s'écartent. Alors les bois poussent entre les fils et après on n'a plus qu'à refermer les fils. Ce qui fait que la rame, si elle tourne, les bois s'appuient contre les fils, mais ils ne tombent pas par terre.
Voilà, je conclue cette seconde tranche de l'émission en disant que le métier de vigneron apparaît aux citadins comme étant tout à fait poétique, mais en réalité, c'est d'une très haute technicité et ça nécessite d'être vraiment en phase avec la nature. Voilà, seconde pause pour vous, chers auditeurs.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
Vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que Aristide a le plaisir de mener. Aujourd'hui, nous sommes donc à Russin, au domaine des Mollards, et le patron le patron qui vient de transmettre à son fils Fabien, en a été Michel Desbaillets. Michel Desbaillets qui parle donc sur la foi d'une très longue expérience. On a parlé des Desbaillets qui sont nombreux dans la région. Il y en a un que j'aimerais évoquer, que vous avez forcément connu, qui me semble avoir été un pionnier. C'est Claude Desbaillets, qui était donc œnologue cantonal. Est-ce que vous avez quelques mots à dire sur le personnage qui me semble avoir été un précieux ferment du redressement du vignoble genevois?
Oui, alors c'était le cousin de mon père. Il habitait juste à côté. Et il habite toujours juste à côté, parce qu'il est toujours vivant. Bon, il a la retraite, mais oui, c'était quelqu'un qui a amené beaucoup de choses, qui était à l'écoute, qui faisait des essais aussi. Il faisait, bon, suivant la demande, quand les producteurs se posaient des questions d'une manière ou d'une autre sur l'utilisation des produits, des techniques viticoles comme ça, lui, il faisait des essais. Et puis, il arrivait avec un résultat plus poussé que le vigneron juste à sa vigne, disons que c'était, il complétait l'ensemble de, il était très à l'écoute des producteurs, et puis quand il y avait une question, ben il la développait jusqu'au bout, jusqu'à faire des micro-vinifications, tout ça, d'essais. On faisait une dégustation par année de tous les essais qui étaient faits, et c'était toujours super intéressant dans le cadre justement du 7 ans, quoi, à l'époque. C'était très intéressant.
Voilà, donc ce n'était pas un vin théoricien, c'était quelqu'un qui était, si je comprends bien, dans la pratique. Et on pourrait dire, avec les mots contemporains, que c'était pour les vignerons, en quelque sorte, un consultant.
Oui, même plus qu'un consultant. Il était à l'écoute du producteur. Puis quand le producteur disait, mais s'il se posait une question, le producteur disait, ouais, là, ça va pas, tout. Lui, il essayait de trouver une réponse.
C'est ça, j'ai un doute, qu'est-ce que je fais, dites-moi, voilà. Parce que je vais pas jouer à pile ou face.
Voilà, exactement. Comme on avait aussi un truc, disons que je me rappelle, maintenant, on sert beaucoup moins ce genre de produit, mais il y en a plusieurs qui ont été retirés aussi. Il y avait des anti-pourritures. Alors, c'est comme si vous allez vendre. Ouais, on a le choix, mais lequel c'est qui marche bien? Parce que toutes les maisons veulent vous vendre quelque chose, mais lequel c'est le meilleur? Parce que tant qu'à faire, autant utiliser le meilleur. Et puis là, lui, il avait développé ça beaucoup comme ça, faire des essais comparatifs, donc dans la même vigne, des lignes traitées avec un produit, un autre produit, en fonction des maisons. Alors, il y avait 400 produits comme ça. Puis après, nous, on savait qu'il y a des produits qui étaient supérieurs dans certaines conditions à d'autres. Et puis, en fonction de ce qu'on voulait faire, du moment d'application, on choisissait le produit qui était le meilleur pour ce qu'on voulait faire. Et là, c'était quelque chose qu'il a beaucoup développé, qu'en privé, il ne pouvait pas y faire comme ça.
Mais voilà, donc un précieux personnage. Actuellement, je ne sais pas qui a pris le relais, si on le sait quand même un peu, mais l'année 2024 aura été pour les vignerons une année difficile.
Plus que ça. Parce que je ne vous cache pas que je n'ai jamais vécu une année comme ça. Pourtant, ça fait depuis 78 que je suis là, puis bon, depuis gamin, quoi. Mais honnêtement, je ne me rappelle pas avoir vu une année si difficile que ça. On a cumulé différents problèmes. Bon, on a eu gros gel au mois d'avril. Alors, comme nous, par exemple, on va faire à peu près le quart d'une récolte normale. Alors, l'année prochaine, ça sera assez compliqué pour trouver la trésorerie. Et puis, ce qui s'est greffé dessus, donc il y a eu le gel, le froid, la pluie. La vigne, il n'y a pas redémarré après le gel, comme s'il fait chaud. Il y a un coup de gel, puis après il fait chaud, il redémarre, puis ça va. Il y a des vignes qui... Et je l'ai tellement fort que le redémarrait pas, c'était pas super, quoi. Et puis là, bon, elles ont repris maintenant, c'est reparti. Mais comme elles ont poussé très vite et puis qu'on n'a plus les produits qui étaient efficaces à l'époque, qu'on a dans le temps, quoi, il y a des produits qui étaient beaucoup plus efficaces maintenant, ces produits, ils sont courts comme effet. Ah bon, on a traité toutes les semaines, mais vu la pousse, parce que la pousse, les nouvelles feuilles ne sont pas couvertes, donc il faut intervenir. Et puis dans le temps, on a des produits systémiques qui pénétraient puis qui restaient longtemps dans la plante. Ils étaient dilués petit à petit, quoi, mais ils restaient beaucoup plus longtemps. Que là, on a des produits qui sont juste de couverture, donc les nouvelles feuilles ne sont pas couvertes. Donc il y a eu des attaques de mildiou qui ont été comme j'ai jamais vu. Hein, je dis franchement, j'ai jamais vu des vignes dans un état pareil, comme ça. Comme ça a pris sur les raisins aussi, donc il y a une diminution de production. Donc la vigne a mûri quand même. On fait les retours de vendange qu'on a. On a des très bons sondages, des très bons. Les raisins sont bons, qui restent, ceux qui restent.
C'est des rescapés.
Voilà, c'est des rescapés. Mais ils ont bien évolué, ça faut reconnaître qu'il y aura certainement une qualité. De vin qui sera bien, mais par contre, la quantité, elle ne sera pas là. Ça, c'est une chose qui est sûre.
Voilà, mais on n'arrête pas de dire qu'il faut boire peu, mais bien. Donc, 2025 ne sera pas une année de disette par rapport au vin genevois. Donc, peut-être c'est les vins qui sont vendus au négoce qui sont moins nombreux.
Voilà, ouais, tout à fait. C'est sur le négoce que ça va se porter. Alors, mais bon, c'est toujours un petit peu comme ça, c'est qu'il y a des années qui sont plus importantes, donc le négoce stocke, et puis après, quand il y a une petite année, ça permet de diminuer les stocks, il y a toujours un volant, il y a un équilibre qui se fait sur la longueur.
Peut-être que maintenant, on ne va pas se faire des copains, mais est-ce que vous avez un problème avec les produits qui sont interdits ?
Oui, alors tout à fait, disons qu'il y a différents produits qui sont malheureusement retirés, qu'on nous retire. Et je pense, disons que là, il y a, si on prend, dans la vigne, on a quand même du choix, disons, au niveau des produits. Mais dans les grandes cultures, par exemple, il y a des produits qui sont retirés, par exemple dans la betterave, des produits qui ont été retirés. Et maintenant, les betteraves sont plus consommables, une partie n'est plus commercialisée. Donc, il y a une baisse de production de betteraves. Alors, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait pour compenser ? On importe. Dans la pomme de terre, par exemple, aussi, ils ont des problèmes de traitement cette année avec toutes les pluies. Donc, ils se sont trouvés un petit peu courts avec les traitements. Donc, il y a eu de la maladie. Et il n'y a aucune gomme qui existe. Hein. On peut pas, une fois qu'il y a une tache, il y a une tache. Et en plus, le commerce ne veut pas. C'est question de santé si le commerce la refuse. Et puis là, on ouvre la porte aux produits importés. Et ça, je trouve dommage.
Voilà. J'aimerais vous poser une dernière question qui est peut-être de nature commerciale. La première, en somme, par rapport à d'autres cultures, est-ce que la vigne est rentable ? Je me trouvais il y a peu de temps avec vigneron, aussi de Russin, dont j'avais eu le nom, qui disait, mais la vigne, c'est plus rentable, le blé, c'est plus rentable, et j'ai meilleur temps de faire pousser de l'herbe. Alors, la vigne est-elle rentable ?
Ah, je vous dirais, comme le sketch de Fernand Reynaud, le paysan, il a dit que mon grand-père disait, un paysan, il doit avoir deux arbres dans son jardin, un bouleau puis un saule pleureur. Alors, c'est vrai que on est tout le temps en train de pleurer, les paysans, mais il y a quand même une part de vérité. Et si on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, l'année passée, ce qu'on a vu, quoi, les Français, quand on est des écriteaux, quand ils manifestaient jusqu'à Paris, c'est vrai qu'il y a un malaise en agriculture. On est quand même la branche où il y a le plus de suicides, alors qu'on y cache. Mais il y a un problème qui est grave. La viticulture, avant, était un petit peu l'aristocratie.
Oui, les nobles avaient les meilleurs terroirs.
Voilà, on était l'aristocratie de l'agriculture. Mais maintenant, Berne, avec le poids des paiements directs, parce qu'il y a les paiements directs qui rentrent en ligne de compte, avec le poids des paiements directs, tout a brouillé les cartes. Et c'est un truc qui est un petit peu dommage, comme vous citez le paysan de Russin qui disait qu'il a meilleur temps de faire de l'herbe que faire du blé. Et c'est vrai. Alors bon, c'est peut-être bien pour la biodiversité, ça d'accord. Mais par contre, pour le paysan quand même, on est quand même fier quand on a un beau champ, une belle vigne, faire pousser de l'herbe, bon, ça fait du bien aux insectes, mais disons que c'est pas valorisant. Et moi, il y a un autre sujet, peut-être dans le même sujet, mais il y a un autre truc en tant que vieux paysan qui me chiffonne, c'est que la Suisse est le pays au monde qui importe le plus de calories. Hein, si on regarde depuis le mi-juin, si on produisait à mi-juin, on mangerait plus en Suisse. Donc, quand on regarde la faim dans le monde, qui cesse d'augmenter, qui continuera d'augmenter, on va, en important, c'est des calories que les gens d'ailleurs n'ont pas. Et ça, c'est un côté qui me dérange profondément. Au niveau moral, c'est que quand on importe, ben, à l'autre bout, il y a quelqu'un qui crève de faim. Et ça, c'est un truc qui... Alors nous, bon, on nous paye pour faire des petites fleurs, alors d'accord, c'est bien pour la biodiversité, c'est bien pour les insectes, c'est bien pour tout le monde, le coup d'œil, s'il y a des petites fleurs, c'est joli. Mais par contre, moi, il y a une chose au niveau moral qui me dérange, c'est que moi, je pense à ceux qui sont au bout de la chaîne, puis que nous, on a pris des calories pour les manger en Suisse. Mais par contre, eux, ils crèvent de faim. Et ça, c'est un côté qui me chiffonne.
Voilà, alors vous rejoignez le propos de notre émission Nectar, à savoir que nous ne cessons de prôner de manger local. On a un terroir qui offre toute possibilité. On a un pays qui est bien arrosé et les conditions de la prospérité sont amplement réunies. J'aimerais vous poser une toute dernière question, de nouveau commerciale. J'ai vu sur votre site internet qu'on peut commander par la boutique en ligne. Est-ce que la boutique en ligne, ça marche ?
Oui, alors ça, c'est mon fils qui s'occupe de ça. Moi, je vous dis que moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec les petits boutons. Donc, c'est lui qui s'occupe de ça. Et effectivement, c'est vrai que ça marche pas autant qu'en France, si on regarde avec des collègues français comme ça, que la vente par Internet marche très, très fort en France. Mais bon, la France est plus grande, il y a plus de distance. Que nous, on a quand même la chance d'avoir des gens qui viennent chez nous. Et puis, ils viennent goûter nos produits, puis ils achètent ce qu'ils aiment. Et nous, ça nous permet aussi de discuter avec eux. Et c'est toujours enrichissant de discuter avec des gens qui sont en dehors du métier, voir comment eux, ils nous voient, voir ce qu'ils vivent aussi, parce qu'ils nous expliquent un petit peu leurs problèmes. Et c'est toujours qu'il y a des problèmes dans le monde entier, partout, quoi. Et c'est toujours enrichissant de discuter avec eux.
Voilà, ce que vous avez dit, c'est exactement notre doctrine, c'est-à-dire que si j'achète en ligne, je ne peux pas goûter, et si je vais chez le vigneron de proximité, je peux goûter les vins de sa gamme, et puis j'aurai à l'intérieur de la gamme mes coups de cœur. Eh bien, c'est exactement ce que nous défendons. Voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup, Michel Desbaillets, de nous avoir instruits. Nous avons appris beaucoup de choses et on voit que l'expérience vous a donné un savoir qui permet d'embrasser toute la profession. Je vous félicite très très chaleureusement et je vous remercie. Chers auditeurs, à bientôt.